On continue notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes rendus aujourd'hui à la première épître de Jean. Donc, dans notre étude de la première épître de Jean, nous allons étudier les points suivants. L'arrière-plan, soit l'auteur, les destinataires, le lieu, la date de composition. Le contenu du livre, son but principal, ses thèmes et sa structure littéraire, les plans du livre et aussi quelques observations. On va commencer par le premier point, l'arrière-plan de la première épître de Jean. Les épîtres de Jean comptent parmi les derniers messages apostoliques laissés à l'Église. Elles sont comme le testament spirituel du disciple bien-aimé, qui a survécu aux autres apôtres. Au terme de sa longue vie, la décantation s'est faite entre l'essentiel et l'accessoire. C'est pourquoi ses paroles coulent à la fois si limpides et si profondes, comme un fleuve près de son embouchure. L'auteur ne se nomme nulle part dans cette épître. Dans la deuxième et la troisième lettre, qui sont évidemment de la même plume, il s'appelle l'Ancien, ce qui ne nous renseigne guère sur son identité. Cependant, dès le début du deuxième siècle, la tradition est unanime pour classer cette lettre parmi les Écritures et pour l'attribuer à l'apôtre Jean. Polycarpe, son disciple immédiat qui a vécu de l'an 69 à l'an 155, ainsi que Papias, son compagnon et co-disciple, le cite comme étant de leur maître. Tous les pères du second siècle confirment cette attribution. L'auteur lui-même se donne pour un témoin oculaire de la vie de Jésus. Il rappelle ses enseignements, parle comme quelqu'un qui a autorité dans l'Église. Il affirme, commande, transmet les commandements de Dieu, aussi bien que les siens propres, donne des critères pour discriminer la vérité de l'erreur, et distinguer les enfants de Dieu des fils du malin. Il sait qu'il dit vrai, et il n'hésite pas à qualifier ceux qui apportent une autre doctrine de menteurs, séducteurs, faux prophètes et antichrist. 15 fois, il emploie le verbe « savoir », dont 9 fois « nous savons », 19 fois le verbe « connaître » et 22 fois le verbe « avoir » dans le sens de « savoir ». Une telle autorité serait difficilement concevable de la part de quelqu'un d'autre qu'un apôtre. Elle est au contraire naturelle si l'auteur était l'un des 12. D'autre part, les ressemblances de vocabulaire, de style et de pensée entre cette épître et l'évangile de Jean sont si frappantes que la presque totalité des spécialistes les attribuent au même auteur, même s'ils en refusent la paternité à l'apôtre. Tous les auteurs des premiers siècles ont attribué l'épître à un disciple immédiat du Seigneur, soit l'apôtre Jean. Les destinataires. L'épître ne contient ni adresse ni salutation. S'agit-il vraiment d'une lettre ou d'une homélie écrite? L'option est confirmée par les détails que l'auteur donne sur ses destinataires et sur ses relations avec eux. Il les connaît personnellement. Il sait qu'ils ont passé par certaines expériences spirituelles, mais qu'ils sont en danger et en butte à la haine du monde. Il emploie des mots affectueux pour s'adresser à eux, bien-aimés, petits-enfants, ou même mes petits-enfants ou petits bambins. Alors le mot technon en grec, c'est vraiment petits-enfants. Le mot païda, ça désigne les enfants en dessous de 7 ans. Il fait appel à une situation historique bien précise. 13 fois, il leur dit « je vous écris » ou « je vous ai écrit ». La relation entre « je » et « vous » est donc bien établie. La lettre s'adresse à une église, ou plutôt à un groupe d'églises que Jean connaissait bien et qui était menacé de dangers précis. Il s'agit probablement d'églises de la province d'Asie, où la tradition situe unanimement l'activité de l'apôtre durant les dernières années de sa vie. C'était en tout cas des croyants. Étaient-ils d'anciens juifs ou d'anciens païens? Si idole à le sens propre. Probablement les deux. La date et le lieu de composition. D'après les témoins d'Irénée et de Clément d'Alexandrie, l'apôtre Jean aurait écrit cette lettre vers la fin de sa vie, entre 85 et 95, après l'Évangile, au moment où apparaissent les premières formes de gnosticisme. Le lieu, d'après les pères de l'Église, l'épître aurait été écrite à Éphèse et adressée aux églises de la province d'Asie que Jean connaissait bien. C'est là, en tout cas, qu'elle fut citée d'abord. Deuxième point qu'on va regarder, le contenu de la première lettre de Jean. Premier épître. Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit constitue le thème essentiel de l'épître. Dieu est lumière et amour. Toute son action s'explique par son amour pour nous. Le connaître, 25 fois Jean emploie ce verbe, c'est pratiquer la justice, la vérité et l'amour. Demeurer est mentionné 26 fois. Demeurer en lui, c'est marcher dans la lumière et dans l'amour. Christ, le Fils unique, un avec le Père, s'est incarné pour détruire les œuvres du diable. Il a expié nos péchés qui peuvent à présent nous être pardonnés si nous croyons en lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il a vaincu le malin et nous a transférés dans son royaume de la mort à la vie. À la droite du Père, il est notre avocat et nous permet de venir dans la présence de Dieu. Avoir le Fils, c'est avoir la vie. L'Esprit rend témoignage à la vérité et habite dans le croyant pour le garder du monde, c'est-à-dire du mal. À côté de ces vérités affirmées avec force, nous trouvons la réfutation d'un certain nombre d'erreurs et des allusions à des gens qui ont abandonné le véritable enseignement chrétien et qui n'y conforment plus leur vie. Troisième point qu'on va regarder, le but principal de la première épître de Jean. Si l'apôtre se sent obligé de rappeler ces éléments fondamentaux de la foi chrétienne à ses correspondants, c'est parce qu'il y a des gens qui les nient et qui ont commencé leur œuvre de sape dans les églises. C'était les prégnostiques, dont on aurait tracé les traces dans les milieux juifs, païens et chrétiens, dès le 1er siècle, et qui essayaient de combiner en un vaste système syncrétiste des éléments philosophiques judaïques et chrétiens. Dès que le christianisme a pénétré en milieu païen, il a dû affronter ce danger. L'apôtre Paul a prévenu à plusieurs reprises les chrétiens de la province d'Asie contre l'intrusion de ces philosophes. Il a demandé à Timothée de superviser l'église d'Éphèse et ses anciens. Après la mort de Paul, Jean s'y est établi. À présent, quelques membres de ces églises d'Asie ont adhéré aux nouvelles doctrines. Certains docteurs et prophètes les ont adoptés et ont quitté l'Église pour répandre leurs erreurs à travers le monde. En restant fidèles à la vérité, les autres membres de l'Église ont remporté la victoire sur eux, mais leur influence séductrice continue à s'exercer et plusieurs fidèles sont vacillants et ne savent plus distinguer la vérité de l'erreur. C'est pourquoi l'apôtre leur rappelle ces vérités qui sont fondamentales depuis le commencement, en les opposant à l'erreur, au mensonge de ceux qui nient le Père et le Fils par les spéculations. Ils prétendent être en communion avec Dieu, l'avoir connu et vu. Ils sont nés de Dieu et demeurent en lui, dans la lumière, sans péché. Mais pour eux, Jésus n'est ni le Christ, ni le Fils de Dieu, venu en chair. Celui-ci ne serait descendu en Jésus qu'au moment de son baptême. Il l'aurait quitté au moment où Jésus s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On se moquait de ceux qui insistaient sur les faits de la mort et de la résurrection du Christ. C'est la signification de ces mythes qui importait, une signification réservée à une élite d'initiés, une attitude qui n'est pas sans parallèle contemporain. C'est là, entre autres, l'enseignement d'un certain Cérinthe, contemporain de Jean à Éphèse, des Docètes et des Nicolaïtes. Puisque la chair était irrémédiablement mauvaise, il n'y avait pas de raison de réformer sa conduite. Pour le spirituel, le péché n'existait pas, donc son comportement n'avait aucune influence sur sa communion avec Dieu. L'apôtre Jean attaque vigoureusement ses erreurs et dénonce la fourberie de ceux qui prétendent allier la religion à une vie dépravée. C'est ce qui explique le côté polémique de l'épître qui côtoie constamment les déclarations positives. Jean nous indique lui-même ce qui l'a poussé à écrire cette lettre. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit complète, afin que vous ne péchiez point au sujet de ceux qui vous égarent, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'Épître a donc 5 buts. Premier but, réjouir ses enfants spirituels et se réjouir dans la communion avec eux. Il vient d'écrire ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. L'erreur et le péché interrompent notre communion avec Dieu et avec les frères. L'annonce de la vérité, si elle est suivie d'obéissance, la rétablit. La joie est le fruit de cette communion, en même temps qu'elle est la marque et le but. Jean l'avait appris de son maître. Deuxième but, c'était de prévenir leur égarement moral afin que vous ne péchiez point. C'est le péché qui nous sépare de Dieu et qui tarit la source même de notre joie. Les chrétiens risquaient d'être séduits par l'enseignement et par l'exemple de ceux qui prétendaient demeurer en communion avec Dieu tout en vivant dans le péché. Troisième but, c'était d'avertir les dangers qu'ils courent. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Petits enfants, que personne ne vous égare ou ne vous séduise. La prophétie que Paul avait faite aux anciens de la capitale d'Asie s'est hélas réalisée. Des loups cruels ont ravagé le troupeau de Dieu. Jean les caractérise par leur nature de faux prophètes, leur influence de séducteurs et leur enseignement antichrist, c'est-à-dire qui nie le Christ en Jésus. L'apôtre réfute leur affirmation et souligne les vérités qui s'opposent à leur thèse. Quatrième but, c'était d'édifier les croyants par l'enseignement de la vérité, afin que vous sachiez, comme on le voit dans le verset 13 du chapitre 5. Le but de l'épître n'est pas seulement polémique, mais édifiant. Les mots « connaître » et « savoir » apparaissent souvent dans ces quelques pages. La vraie connaissance est l'antidote le plus sûr et le meilleur vaccin contre l'erreur. C'est pourquoi l'apôtre veut affermir les chrétiens dans la joie, la sainteté et l'assurance de leur salut. C'est pourquoi aussi il leur rappelle inlassablement le message qu'ils ont entendu depuis le commencement. Et il leur donne des signes qui leur permettront de discerner la vérité de l'erreur. Cinquième but, c'était de donner aux croyants l'assurance de leur salut. Je vous ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Verset 13 du chapitre 5. James Montgomery Boyce pense même que c'est là le but premier de cette lettre, amener les chrétiens à une absolue certitude de leur salut. Cette assurance était nécessaire aux destinataires troublés par les chrétiens qui les avaient quittés et qui prétendaient avoir eux seuls la vraie foi. Pour que les croyants puissent s'éprouver eux-mêmes et voir s'ils ont la vraie foi, Jean leur donne un certain nombre de critères leur permettant de se tester. On a relevé 7 critères d'une vie chrétienne authentique. Premier critère, marcher dans la lumière en communion avec les autres chrétiens. Deuxième critère, confesser son péché. Troisième critère, obéir au commandement de Dieu et confesser Jésus-Christ. Quatrième critère, suivre Jésus-Christ. Cinquième critère, aimer ses frères. Sixième critère, ne pas aimer le monde. Septième critère, accomplir ce qui est juste. Quatrième point, les thèmes et la structure littéraire. L'Épître réfute la fausse doctrine et encourage les lecteurs à marcher dans la vérité. Jean liste les critères et caractéristiques de communion avec Dieu et montre que ceux qui demeurent en Christ peuvent avoir de la confiance et de l'assurance devant lui. La lettre se divise en deux parties, la base de la communion avec Dieu et le comportement de la communion avec Dieu. Un thème majeur de l'Épître est la communion avec Dieu. Jean veut que ses lecteurs aient l'assurance de l'habitation par Dieu dans leur relation avec lui. Des phrases mettant l'emphase sur la certitude chrétienne reviennent 5 fois dans la lettre. Contre les faux docteurs qui nient la réalité de l'incarnation en disant que Jésus avait seulement l'apparence d'un corps humain, Jean affirme fortement que le Fils de Dieu prit une nature humaine complète et authentique. L'hérésie que Jean confronte ici est avant-coureur du gnosticisme du IIe siècle, qui enseignait que la matière est essentiellement mauvaise et que l'esprit est essentiellement bon. Cette erreur dualiste amenait les faux docteurs à nier l'incarnation de Christ. Le vrai Dieu, enseignait-il, n'aurait pas pu habiter un corps matériel de chair et de sang, et que par le fait même, le corps humain de Jésus ne pouvait qu'être apparent seulement. Un autre thème important de l'Épître est l'amour. Le mot apparaît plus de 35 fois dans le document. L'apôtre utilise l'exemple de Caïn pour illustrer ce que l'amour n'est pas. La haine, c'est le meurtre en esprit. La haine vient de la sphère terrestre de la mort. Jean utilise ensuite l'exemple de Christ pour illustrer ce qu'est l'amour. C'est le sacrifice de soi et non pas seulement sa profession. Cette expression pratique de l'amour résulte dans l'assurance devant Dieu et l'exaucement des prières parce que le croyant marche en obéissance au commandement de Dieu, croit en Christ, aime les frères. Comme je l'ai fait à toutes les fois qu'on fait une étude sur un livre en particulier, j'ai mis 2 plans, un plan succinct et un plan un peu plus détaillé que je vous conseille de regarder quand vous allez étudier les Écritures. Alors, le plan, téléchargez ceux qui entendent sur Internet les 2 plans, c'est-à-dire la leçon complète, vous allez avoir les 2 plans là-dedans. Et c'est une chose excellente que lorsqu'on étudie en profondeur, de revoir ce plan-là et de voir comment il se développe pour mieux comprendre l'Épître, la première Épître de Jean. Alors, quelques observations maintenant sur la première Épître de Jean. Tout est relatif. Ce slogan contemporain caractérise bien notre époque. Il n'y a rien de sûr et de stable ici-bas, pas de certitude, de vérité et de bien absolu. Tout change avec les temps, les lieux et les circonstances. Nul ne saurait prétendre détenir la vérité. Il y a du vrai dans toutes les religions, toutes les philosophies. Ces axiomes flottent dans l'air que nous respirons, nous imprègnent et façonnent bon gré mal gré notre pensée. Avec l'Épître de Jean, nous pénétrons dans un autre monde. Tout est net, tranché, absolu. Dès les premières notes, un souffle de certitude vous fouette le visage. Nous avons vu, entendu, touché, nous savons, nous connaissons. Ici, on connaît la vérité, aussi bien sur Dieu que sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a ouvert les yeux pour que nous connaissions le Dieu véritable. La certitude repose sur la révélation apportée par Jésus et à laquelle les apôtres ont rendu témoignage. Le Saint-Esprit, de son côté, enseigne les croyants et confirme le témoignage apostolique dans leur cœur. Ainsi, nous savons que nous connaissons Dieu, que nous sommes en lui et qu'il est en nous, que nous sommes passés de la mort à la vie et que nous avons la vie éternelle. Au milieu des incertitudes de notre temps, cette lettre nous apporte des certitudes. Ces affirmations lapidaires, toutefois, exigent une prise de position aussi nette et tranchée. On croit ou on ne croit pas. On a la vie ou on ne l'a pas. On est en deçà ou au-delà de la frontière qui passe entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort. À ceux qui ne savent pas quelle est leur position, l'Épître fournit des critères qui permettent de faire le point avec exactitude. La foi, la conduite, l'attitude envers les frères sont autant de marques du véritable enfant de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ venu en chair, qui garde les commandements de Dieu et qui aime les frères, c'est par là qu'il est né de Dieu. Ce triple critère, théologique, moral et social, s'applique au système de pensée qui vient à nous sous des dehors chrétiens. Si une théologie nie la divinité de Jésus-Christ, dont sa préexistence et son incarnation, si une doctrine religieuse ne débouche pas sur une vie sanctifiée, si une expérience mystique ne transforme pas notre attitude envers le prochain et ne nous fait pas aimer les frères, elle ne saurait être authentiquement chrétienne. Face au pluralisme doctrinal, à la morale relative, à la violence et au racisme, l'apôtre Jean nous rappelle par cette lettre que les marques permanentes du vrai chrétien, aussi bien que du vrai christianisme, c'est-à-dire aussi bien que du vrai chrétien, sont la foi en Jésus, le Fils de Dieu, la sainteté de la conduite et l'amour des frères, mais un amour vrai et agissant. Étroitesse, piétisme, intolérance, notre temps condamne l'intolérance. Mais ce qu'on appelle tolérance n'est souvent qu'indifférence et scepticisme. N'est-il pas singulier que ce soit précisément Jean, l'apôtre de l'amour, qui ait des affirmations aussi radicales que « celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie » ou « si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Qui traite ceux qui ont d'autres opinions que lui de menteur et d'antichrist? » Mais ce radicalisme et cette apparente dureté ne sont-ils pas des marques du véritable amour qui discernent les graves dangers qui nous guettent si nous abandonnons le seul fondement stable de la foi transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu? Il est hors de tout doute que chez Jean, cette dureté découle du véritable amour. Nous avons besoin de cette dureté. Un tel enseignement est de toute évidence vital pour l'Église et le monde d'aujourd'hui. En dépit de toutes les différences entre le premier siècle et le nôtre, les différences entre les deux rendent possible sans grande difficulté l'application de l'enseignement johannique à notre situation. L'Église actuelle a besoin d'apprendre les leçons que cette épître nous donne, que la foi doit être fondée sur la révélation que Dieu a donnée de lui-même dans son Fils Jésus-Christ, que l'on ne peut pas séparer la foi de l'amour, que les chrétiens sont appelés à vivre une vie d'amour parfait et qu'ils peuvent avoir l'assurance et la certitude de leur connaissance de Dieu. C'est cette même note d'assurance que souligne G.M. Boyce quand il parle du monde incertain, confus et instable dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais dans ce monde, le christianisme apporte une note de certitude. Selon Jean, un chrétien peut savoir, premièrement, que le christianisme est vrai, et deuxièmement, qu'il est lui-même un chrétien. Le message de cette lettre est que cette double assurance est juste, nécessaire et normale pour des chrétiens. Pour Jean, nous ne demeurons dans le Fils et dans le Père que dans la vérité que nous avons entendue dès le commencement, s'il demeure en nous. Le fondement ne varie pas. Il est le même qu'au premier siècle, car il repose sur l'événement historique qui a nom Jésus. Nous ne pouvons connaître Dieu en dehors de lui. Il n'y a de lumière sur Dieu et de Dieu que dans la destinée obscure et douloureuse de Jésus. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Toute théologie qu'on dit progressiste est ainsi condamnée d'avance. À la fin de l'ère apostolique, la foi chrétienne se trouvait confrontée au syncrétisme pré-gnosticiste qui voulait amalgamer en un système unique l'apport religieux du paganisme, du judaïsme et du christianisme. À la fin de la chrétienté, de nouveaux syncrétistes apparaissent. Théosophie, anthroposophie, nouvel âge, spiritualisme d'inspiration orientale et religion universelle qui prétendent faire bénéficier leurs adeptes des intuitions religieuses de toute l'humanité. Ceux qui n'ont qu'une connaissance récente et superficielle du christianisme peuvent être attirés par les spéculations profondes de ces systèmes contrastants avec l'apparent simplicisme de la foi chrétienne, par leur mysticisme, leur souffle d'universalisme et peut-être aussi par leurs exigences morales réduites. Notre épître nous dit clairement ce qu'il faut penser de ces innovations. Tout ce qui ne remonte pas au commencement est mensonge. Tout système qui ravit à Jésus-Christ la place de Fils unique et de seul médiateur par qui nous pouvons connaître le Dieu véritable est antichrétien. En un temps où l'esprit moderne est sollicité, attiré par tous les syncrétismes d'Orient et d'Occident, le message johannique est plus actuel que jamais. Beaucoup de ceux qui ont lu cette lettre ont probablement grandi comme chrétiens. Il était par conséquence possible à présent de vivre un christianisme constitué d'habitudes. Les circonstances des premiers destinataires sont semblables aux nôtres. Les paroles de la lettre n'ont pas besoin de transposition pour s'appliquer directement à nous. La vie a été manifestée. Nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Ces affirmations marquent le début, le milieu et la fin de la lettre. L'aspiration à la vie, à plus de vie, à une vie plus réelle, est aussi l'un des espoirs fondamentaux de l'homme d'aujourd'hui. Jean nous dit que la vraie vie est inséparable de l'amour. Toute la psychologie et la littérature moderne le confirment. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mais la vie aussi bien que l'amour, ne sont accessibles que dans la communion avec Dieu. Car comme la vie est en Dieu et dans son Fils, l'amour a sa source en lui, car Dieu est amour. Au-delà de toute polémique, l'Épître garde toute sa valeur d'édification, car Jean était avant tout soucieux de consolider la foi des chrétiens menacés en leur rappelant les fondements du message originel. Au terme de sa longue vie, la décantation s'est faite entre l'essentiel et l'accessoire. C'est pourquoi ses paroles coulent à la fois si limpides et si profondes comme un fleuve près de son embouchure. Aucun écrit biblique n'unit à tel point la profondeur et l'intériorité. Aucun n'a cette richesse surabondante. C'est pourquoi, si nous voulons, en peu de mots, expliquer ce que nous croyons, ou si nous avons besoin nous-mêmes de nous ressourcer par un contact avec l'essence de notre foi, nous ne saurions mieux faire que de nous tourner vers cette première épître de Jean. Application, la première épître de Jean est extrêmement précieuse pour nous apprendre à distinguer le vrai du faux. Il y a des conditions à la communion avec Dieu. Marcher dans la lumière, reconnaître et confesser nos péchés, obéir aux commandements et s'aimer authentiquement les uns les autres. Deuxièmement, elle nous apprend aussi à se méfier de nos grands ennemis. L'amour du monde et tous les renseignements qui sont les produits de l'Antichrist ou des antichrists. Troisièmement, la lettre nous fournit de précieux outils, les 7 critères, pour tester l'authenticité de notre foi. Premier critère, marcher dans la lumière en communion avec les autres chrétiens. Deuxième critère, confesser son péché. Troisième critère, obéir au commandement de Dieu et confesser Jésus-Christ. Quatrième critère, suivre Jésus-Christ. Cinquième critère, aimer ses frères. Sixième critère, ne pas aimer le monde. Septième critère, accomplir ce qui est juste. Quatrième application, l'Épître nous stimule en nous rappelant les conséquences d'une telle communion avec Dieu. la victoire sur le monde, l'assurance de notre salut, l'exaucement de nos prières et la victoire sur le péché. Que le Seigneur soit béni pour nous avoir donné les écrits de l'apôtre Jean. Amen.